Tamalan se tenait devant la fenêtre en saillie, tournant le dos à la porte, lorsque Sital et Odrad pénétrèrent dans le bureau. La lumière du soleil couchant embrasait les toitures voisines. Mais sous leurs yeux, tout cet éclat disparut d'un seul coup, ne laissant subsister qu'une impression de contraste et une nuit plus noire à cause de la dernière lueur qui rougissait la ligne d'horizon. Dans la pénombre laiteuse, Odrad fit signe aux gardes de les laisser en remarquant leur réticence. De toute évidence, Beyonda leur avait ordonné de rester, mais elle ne voulait pas désobéir à la mère supérieure. Elle indiqua un canisiège à quelques pas de l'endroit où elle se tenait et attendit qu'il prît place. Il se tourna d'un air méfiant pour regarder Tamalan avant de se laisser tomber dans le cani, mais dissimula son trouble en disant « Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ?»« C'est une pause de relaxation, » répondit Odrad. « Et nous savons à quel point l'obscurité te rend nerveux. » Elle demeura debout un long moment derrière sa table de travail, étudiant les masses plus claires qui se détachaient dans l'ombre et qui constituaient son environnement d'objets familiers. Le buste de feu Chenoé dans sa niche murale à côté de la fenêtre, un tableau pastoral accroché au mur un peu plus à droite, représentant les premières migrations humaines dans l'espace, une pile de cristaux réduliens sur le bureau et le reflet argenté de son stylet optique qui concentrait le peu de clarté encore fournie par les fenêtres. Il a suffisamment mijoté dans son jus. Elle toucha une plaque sur sa console. Des brilleurs stratégiquement répartis en différents endroits des murs et du plafond s'allumèrent. Tamalan choisit ce moment précis pour se retourner en faisant crisser délibérément sa robe. Elle alla se placer à deux pas de Sital dans son dos, image imperturbable de tous les inquiétants mystères Bene Gesserit. Sital avait tiqué légèrement en percevant le mouvement de Tamalan, mais il était à présent impassible dans son siège. Le cani était beaucoup trop grand pour lui et le faisait presque ressembler à un enfant. « Les sœurs qui vous ont sauvés, » commença Odrad, « nous rapportent que vous aviez sur jonction le commandement d'un non-vaisseau qui se préparait à accomplir son premier saut dans les replis spatiaux au moment de l'attaque des honorés matriarches. Vous étiez en train de regagner le vaisseau à bord d'une navette monoplace, » disent-elles, « et vous avez brusquement changé de direction très peu de temps avant les explosions. » Vous aviez donc détecté la présence des assaillants. Oui. Sa voix était empreinte de réticence. Sachant que l'ennemi aurait pu localiser le non-vaisseau d'après votre trajectoire, poursuivit Odrad, vous avez fui, abandonnant vos frères à leur sort tragique. Il répondit sur le ton d'amertume prostré d'un témoin encore sous le coup d'une catastrophe. Quelque temps avant, en quittant le Tleilax, nous avions assisté au début de l'attaque. Ce sont nos propres explosions, destinées à détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, ainsi que les brûleurs spatiaux, qui ont déclenché le low-cost. Nous avons tout abandonné à ce moment-là. Mais vous n'êtes pas allé directement sur jonction. Partout où nous avons essayé d'aller, elles étaient déjà passées avant nous. Elles étaient maîtresses des cendres, mais moi j'avais nos secrets.
Qu'elle n'oublie pas que j'ai encore des renseignements précieux à troquer, se disait Sital. Et joignant le geste à la parole, il se tapota le front avec deux doigts.
« Vous cherchiez la protection du Chum ou de la guilde sur jonction, » lui dit Odrad. « Vous avez eu de la chance que notre vaisseau espion ait été là pour vous ramasser avant que l'ennemi puisse réagir. » « Ma chère sœur, » comme ces mots sortaient difficilement, « si vraiment vous êtes ma sœur devant lequel, pourquoi ne me donnez-vous pas les serviteurs dans ce visage que je vous demande ?»«
Trop de secrets encore entre nous, Sital. Par exemple, pourquoi étiez-vous en train de quitter Bandalong quand les assaillants sont arrivés ?»
Bandalong.
D'entendre ainsi nommer la grande cité du Tleilax lui serrait le cœur, et il avait presque l'impression de sentir vibrer la capsule anthropique, comme si elle cherchait à libérer son précieux contenu.
Bandalong, la cité à jamais perdue. Jamais plus il ne reverrait son ciel de cornaline. Jamais plus il ne retrouverait la présence de ses frères, du patient Domel, et...
« Vous ne vous sentez pas bien ?» demanda Odrad.
« L'idée de tout ce que j'ai perdu me rend malade, » gémit Sital.
Puis percevant un froissement de tissu derrière lui, il sentit la présence encore plus proche de Tamalan. Que cet endroit était oppressant.
« Pourquoi reste-t-elle derrière moi ?» demanda-t-il.
Je suis au service de mes sœurs, et elle est ici pour nous observer l'un et l'autre.
Vous avez prélevé des cellules sur ma personne, n'est-ce pas? Vous créez dans vos cuves un sital de rechange.
C'est évident. Vous ne pensez pas que le Bene Gesserit laisserait s'éteindre ici le dernier représentant des grands maîtres, n'est-ce pas?
Aucun Gola issu de moi ne fera jamais une chose que je n'aurais pas faite.
Et aucun ne portera sur lui de capsule anthropique.
Nous le savons.
Mais quelle est la chose que nous ne savons pas?
Ce n'est pas une négociation, se plaignit Sital.
Vous me sous-estimez, Sital. Nous savons à quel moment vous mentez et à quel moment vous dissimulez. Nous possédons des sens que les autres n'ont pas.
Et c'était vrai. Elle décelait beaucoup de choses aux odeurs de son corps, aux tressaillements de ses muscles, aux expressions qu'il était incapable de dissimuler.
Des sœurs?
Ces créatures sont Powinda, toutes sans exception.
Vous étiez en état de Lashkar, accusa Audrad.
Lashkar. Comme il aurait voulu être ici en état de Lashkar, avec de vrais combattants polymorphes et des assistants du Domel, afin d'éliminer ces abominations. Mais il n'osait pas mentir. Celle qui se tenait derrière lui était probablement une diseuse de vérité. L'expérience de multiples existences lui disait que les diseuses de vérité Bene Gesserit étaient ce qu'il y avait de mieux.
« Je commandais un détachement de Kassadar, dit-il. Nous cherchions un troupeau de futards pour notre défense. »
Un troupeau? Le Tleilaxus avait-il des choses sur les futards qui n'avaient pas été révélées aux sœurs?
Vous étiez prêt à vous livrer à des actes de violence? Les honorées matriarches ont-elles eu vent de votre mission? Vous ont-elles coupé l'herbe sous le pied? À mon avis, c'est probable.
Pourquoi les appelez-vous honorées matriarches?
La voix du Tleilaxus était devenue presque un couinement.
Parce que c'est le nom qu'elle se donne elle-même, lui répondit Audrad.
Pas trop vite, surtout. Laissons-le mijoter dans ses propres erreurs.
Elle a raison, se disait Sital. Nous avons été trahis. Ses pensées étaient plus qu'amères. Il se demandait ce qu'il devait leur dire. Quelques petites concessions?
Mais la moindre révélation risquait d'avoir des conséquences énormes avec ces femmes.
Un soupir souleva sa poitrine, la capsule anthropique et son contenu. Sa préoccupation première. N'importe quoi pour obtenir l'accès à ses propres cuves Axlotl. Des descendants de ceux que nous avions envoyés à la dispersion sont revenus avec des futards prisonniers, dit-il. Comme vous le savez sans doute, il s'agit d'une race d'humains croisés avec des félins. Mais nous n'avons pas pu les reproduire dans nos cuves. Et avant que nous ayons pu en déterminer les raisons, ceux qui nous avaient été fournis sont morts.
Les traîtres ne nous en avaient donné que deux. Nous aurions dû nous douter de quelque chose.
On ne vous a pas livré beaucoup de futards, n'est-ce pas?
Demanda Audrad.
Vous auriez dû vous douter qu'ils n'étaient destinés qu'à vous appâter.
Qu'est-ce que je disais? Voilà ce qu'elles arrivent à tirer de la moindre révélation.
Pourquoi les futards n'ont-ils pas pourchassé et massacré les honorés matriarches sur Gameux?
Poursuivit Audrad. C'était Duncan qui le premier avait posé la question, et elle méritait une réponse.
On nous a dit qu'aucun ordre n'avait été donné dans ce sens, et ils ne tuent que s'ils en ont reçu l'ordre.
Elle le sait déjà, elle veut me mettre à l'épreuve.
Les danseurs visages, eux aussi, tuent sur commande. Ils n'hésiteraient pas à vous tuer vous-même si vous leur donniez, n'est-il pas vrai?
Cet ordre-là est réservé au cas où il est nécessaire d'empêcher nos secrets de tomber dans des mains ennemies.
C'est pour cette raison que vous voulez des danseurs visages?
Nous considérez-vous comme des ennemis?
Avant qu'il ait pu composer une réponse, l'image grandeur nature de Beyonda se projeta au-dessus de la table, à demi transparente sur le fond de cristaux réduliens des archives.
Communication urgente de Shiana. L'explosion de masse d'épices s'est produite. Les vers des sables sont là.
L'image se tourna vers Sital, ses mouvements parfaitement coordonnés par les Oikom.
Vous venez de perdre un de vos plus beaux leviers de négociation, maître Sital. Nous avons notre épice, enfin.
L'image projetée disparut avec un clic sonore, laissant flotter derrière elle une faible odeur d'ozone.
Vous essayez de me duper, bredouilla Cital.
Mais à ce moment-là, la porte qui se trouvait sur la droite d'Audrade s'ouvrit toute grande, et Chiana fit irruption dans la pièce, remorquant un caisson, monté sur suspenseur, dont la longueur ne devait pas excéder 2 mètres. Ses parois transparentes réfléchissaient la lumière des brilleurs sous la forme de minuscules points jaunes. Et à l'intérieur du caisson, quelque chose se tortillait. Chiana s'écarta sans dire un mot pour les laisser regarder. Le verre était si petit, pas même la moitié de la longueur de sa prison, mais parfait dans ses moindres détails, sur un lit peu profond de sable doré. Cital ne put réprimer une exclamation de stupeur. Le prophète. La réaction d'Audrade fut plus pragmatique. Elle se pencha au-dessus du caisson pour scruter l'intérieur de la gueule miniature. Le souffle brûlant de la fournaise interne des grands verres réduit à cette parodie dérisoire. Des dents de cristal brillèrent tandis qu'il se soulevait sur ses segments intérieurs. La tête du verre se balança de droite à gauche, puis de gauche à droite, laissant voir à tous derrière la rangée de dents le brasier en réduction de son étrange chimie.
« Il y en a des milliers !» dit Chiana. « Ils ont été attirés, comme toujours, par la masse d'épices. »
Audrade demeurait silencieuse.
« Nous avons réussi. »
Mais ce moment de triomphe appartenait à Chiana. À elle d'en tirer le meilleur parti. Cital n'avait jamais paru si accablée. Chiana souleva le couvercle du caisson et prit le verre dans ses bras comme si c'était un enfant. Il se laissa faire sans remuer. Audrade prit une longue inspiration, soulagée. Elle a toujours le même ascendant sur eux. « Cital, » murmura-t-elle. Il semblait incapable de détacher son regard du verre. «
Êtes-vous toujours le serviteur du prophète ? » poursuivit-elle. « Il est ici, devant vous. »
Il ne savait que répondre. Un authentique rejeton du prophète ? Il aurait voulu renier sa première réaction de stupeur, mais ses yeux ne l'y autorisaient pas. Audrade lui parla d'une voix très douce.
« Pendant que vous étiez lancé dans votre stupide mission, votre égoïste mission, nous servions le prophète. Nous avons sauvé son dernier rejeton pour l'amener ici. Le chapitre va devenir une autre dune. »
Elle retourna s'asseoir et joignit ses mains devant elle. Bey suivait toute la scène par les yeux comme, bien sûr. Les observations d'un mentat allaient être précieuses. Audrade aurait préféré qu'Idaho les regarde aussi, mais il pourrait toujours avoir accès par la suite aux enregistrements holo. Il était clair pour elle que Cital n'avait vu jusqu'ici dans le Bene Gesserit qu'un outil susceptible de ressusciter sa précieuse civilisation Tleilaxu. Ce qu'il venait de voir ici pourrait-il le forcer à révéler les secrets enfouis au plus profond de ses cuves? Jusqu'où serait-il disposé à aller?
« Il me faut un peu de temps pour réfléchir, »
dit-il d'une voix qui tremblait.
« Pour réfléchir à quoi ?»
Il ne répondit pas, mais concentrait son attention sur Chiana, qui était en train de replacer le verre dans son caisson. Elle le caressa une dernière fois avant de rabattre le couvercle.
« Expliquez-moi, Cital, » insista Audrade, « comment vous pouvez encore avoir à réfléchir? Notre prophète est là.
Vous dites que vous êtes au service de la grande croyance.
Eh bien, servez-la. »
Elle voyait les rêves du Tleilaxu se dissoudre devant elle.
Ces danseurs visages, pour qu'ils puissent retranscrire la mémoire de leurs victimes, copier leur allure et leur aspect physique.
Ils n'avaient jamais sérieusement pensé pouvoir donner le change à une révérende mère. Peut-être des acolytes ou des ouvriers du chapitre à la rigueur. Tous les secrets qu'il espérait glaner, envolés. Aussi sûrement perdus pour lui que les carcasses carbonisées des planètes du Tleilax.
Notre prophète, c'était ce qu'elle avait dit. Il tourna vers Audrade d'un regard hébété, sans la voir vraiment. « Que faut-il que je fasse? Ces femmes n'ont plus besoin de moi, mais j'ai besoin d'elles. »
Cital, comme elle parlait doucement,
« la grande convention n'est plus en vigueur. C'est un univers neuf qui nous entoure. »
Il essaya de déglutir malgré sa gorge sèche. Le concept de violence avait pris une signification entièrement nouvelle. Dans le vieil empire, la convention garantissait des représailles immédiates contre tous ceux qui auraient osé carboniser une planète en l'attaquant de l'espace.
« C'est l'escalade de la violence, Cital, »
continua Audrade, d'une voix qui n'était guère plus qu'un souffle.
« Nous dispersons les graines de la fureur. »
L'attention de Cital se fixa subitement sur elle.
Mais que dit-elle ?
La haine accumulée contre les honorés matriarches,
murmura-t-elle. Tu n'es pas le seul à avoir subi des pertes, Sital. Naguère, quand un problème surgissait dans notre civilisation, un cri unanime s'élevait. Amenez-vous une révérende mère. Grâce aux honorés matriarches, les choses ont changé. Les mythes sont reconvertis. Une lumière dorée se projette sur notre passé. C'était bien mieux dans l'ancien temps, quand le Bene Gesserit pouvait nous aider. Où trouver une bonne diseuse de vérité à notre époque ? Un arbitrage ? Ces honorés matriarches ne savent même pas ce que cela veut dire. Les révérendes mères étaient toujours courtoises. Il faut au moins leur reconnaître ça. Voyant que Sital ne lui répondait pas, elle poursuivit.
Songez à ce qui pourrait se passer si cette fureur se déchaînait sous la forme d'un djihad.
Sital demeurait muet.
Vous l'avez bien vu, dit-elle. Les Tleilaxu, les Bene Gesserit, les prêtres du dieu fractionné et qui sait combien d'autres encore, tous pourchassés, persécutés comme un infâme gibier.
Elles ne peuvent pas nous massacrer tous,
fit-il en un cri de souffrance rauque.
Vous croyez qu'elles ne le peuvent pas ?
Vos dispersés ont fait cause commune avec ces matriarches. Allez-vous chercher refuge dans la dispersion ?
Un autre rêve qui s'envole. Les petites graines de Tleilaxu, tenaces comme des pustules infectées, attendant le jour du grand renouveau de Sital.
L'oppression fortifie les peuples, dit-il.
Mais ces mots étaient sans force.
Même les prêtres de Rakis trouvent des trous pour se cacher,
ajouta-t-il d'une voix tremblante de désespoir.
Qui vous a dit cela ? Vos amis de là-bas ?
Son silence était la seule réponse dont elle avait besoin.
Le Bene Tleilax a tué des honorés matriarches et elles le savent, dit-elle sans lui laisser de répit. Elles ne seront contentes que lorsque vous serez exterminés.
Et vous aussi.
Nous sommes associés par nécessité, sinon par une foi commune,
dit-elle dans le plus pur langage de l'islamiyat, et elle vit aussitôt une lueur d'espoir renaître dans ses yeux. Le Kehl et le Sharia ont encore une chance de reprendre leur ancienne signification parmi des peuples qui formulent leurs pensées dans le langage de Dieu.
« Associé ?»
répéta-t-il d'une voix faible et extrêmement hésitante. Elle se fit incisive.
« D'une certaine manière, c'est une base plus fiable que tout autre pour des actions communes. Chacun de nous sait exactement ce que l'autre désire, c'est un mécanisme intrinsèque. Un crible qui ne laisse subsister que de solides possibilités d'action. »
Et qu'attendez-vous de moi ?
Vous le savez déjà ?
Comment fabriquer les meilleures cuves ?
Oui, je sais.
Il secoua la tête, visiblement hésitant.
Les changements que cette demande impliquait. Odrad ne savait pas si elle pouvait se permettre de laisser jaillir sa fureur. Comme il était obtus. Mais la panique le menaçait. Les anciennes valeurs étaient modifiées. Les honorés matriarches ne constituaient pas la seule source de ces bouleversements. Sital n'imaginait pas l'ampleur des changements qui avaient contaminé ses propres dispersés.
« Les temps changent, » dit-elle.
« Les changements, » songeait Sital.
« Quelle notion inquiétante. »
« Il me faut absolument des danseurs visages à mon service, » dit-il.
Puis il ajouta d'une voix presque suppliante,
« Et des cuves à moi.
Mes conseillères et moi réfléchirons sur ce point.
Qu'avez-vous besoin de réfléchir ?»
Il lui renvoyait ses propres paroles de tout à l'heure.
« Votre accord vous suffit ? Moi, j'ai besoin de celui de mes sœurs. Vous voyez, avec un sourire sec, que finalement, nous vous laissons le temps d'y penser. »
Elle adressa un signe à Tamalan qui fit entrer les gardes.
« On me reconduit au non-vaisseau, »
demanda-t-il du seuil, tel un gnome au milieu des silhouettes massives qui l'encadraient.
« Oui, mais ce soir, vous n'allez pas à pied. »
Son regard s'attarda une dernière fois sur le verre quand il sortit. Après le départ de Sital et de son escorte, Shiana déclara
« Vous avez bien fait de ne pas vous montrer plus pressante, mère supérieure. La panique le guettait. »
Beyonda arriva à ce moment-là en disant
« Peut-être vaudrait-il mieux le tuer simplement ?»«
Bey, prenez l'enregistrement et repassez-vous tout ça. » Mais mettez-vous sur le mode Mentat cette fois-ci. »
Cela l'arrêta. Tamalan gloussa.
Vous prenez trop de plaisir à assister à la déconfiture d'une sœur, Tam, lui dit Shiana.
Tamalan haussa les épaules, mais Odrad était ravie.
Elle ne taquinera plus Bay ?
Quand vous avez laissé entendre que le chapitre deviendrait une autre dune, c'est là que la panique a débuté,
dit Bayonda d'une voix lointaine de Mentat. Odrad avait perçu sa réaction, mais elle n'avait pas encore fait consciemment le rapprochement. C'était le rôle précieux du Mentat. Discerner des trames et des systèmes, organiser les regroupements. Bay avait senti une structure derrière les attitudes de Cital.
« Je me demande, est-ce que la chose est redevenue réelle ?» poursuivit Bayonda.
Odrad vit aussitôt à quoi elle faisait allusion. Quelque chose de curieux caractérisait les endroits perdus à jamais. Tant que Dune demeurait une planète vivante bien connue, il existait une sorte de fermeté historique sur sa présence dans le registre galactique. On pouvait montrer du doigt une projection et dire « Voilà Dune, autrefois nommée Arrakis, et Rakis par la suite ». Dune, à cause de son caractère totalement désertique du temps de Muad'Dib. Qu'on détruise l'endroit cependant, et une patine mythologique se formait, qui hurlait contre la réalité projetée. Avec le temps, ces lieux devenaient totalement mythiques. Arthur et sa table ronde, Camelot, la cité où il ne pleut que la nuit. Bel exemple de régulation du temps pour cette époque. Mais aujourd'hui, une nouvelle dune était née.
« Le pouvoir du mythe !»
murmura Tamalan. Ah oui, Tam, sur le point d'abandonner sa dépouille de chair, devait être plus sensible aux mécanismes des mythes. Mystères et secrets, les instruments favoris de la missionaria, avaient été utilisés aussi sur Dune par Muad'Dib et par le tyran. Les germes étaient implantés. Même si les prêtres du dieu fractionné avaient été expédiés à leur perdition, les mythes de Dune foisonnaient.
« Le mélange !» murmura Tamalan.
Les autres sœurs présentes comprirent aussitôt ce qu'elles voulaient dire. Un espoir nouveau pouvait être injecté dans la dispersion Bene Gesserit.
« Pourquoi tiennent-elles tellement à nous voir mortes et non prisonnières ?» demanda Bayonda. « C'est un point qui m'a toujours intrigué. »
Les honorés matriarches donnaient l'impression qu'elles ne tenaient pas à garder une seule révérende mère en vie. Seule l'épice les intéressait peut-être, mais elles avaient détruit Dune, elles avaient détruit le Kleylax. Il y avait là de quoi inciter à la prudence dans une éventuelle confrontation avec la reine araignée, si jamais Dortujla réussissait dans sa mission.
« Pas même des otages utilisables, » reprit Bayonda.
Odrad vit les sœurs changer d'expression. Elles suivaient le même fil conducteur, comme si leur raisonnement s'effectuait avec un seul cerveau. Les leçons infligées par les honorés matriarches, en laissant peu de survivants, ne faisaient que rendre plus prudente une opposition en puissance. Cela instituait une règle du silence à l'intérieur de laquelle les souvenirs amers devenaient des mythes amers. Les honorés matriarches ressemblaient aux barbares de toutes les époques. Pas de prisonniers, mais du sang. Une violence déchaînée et aveugle.
« Dar a raison, »
déclara Tamalan.
« Nous sommes allés chercher nos alliés trop près de chez nous. »
« Les futards ne se sont pas créés tout seuls, » dit Shiana.
« Ceux qui les ont créés espèrent nous faire passer sous leur domination, »
fit Bayonda sur le ton net de la projection primaire.
« C'est ce que signifient les hésitations décelées par Dortujla chez les Belluaires. »
Le danger était là, et elle devait lui faire face avec toutes ses conséquences. Comme toujours, tout revenait à une question de gens, les contemporains. On apprenait beaucoup de choses précieuses en étudiant les gens de son époque et les connaissances qui leur venaient de leur passé. La mémoire seconde n'était pas le seul moyen d'accès à l'histoire. Odrad avait l'impression d'être rentré à la maison après une longue absence. Il y avait une sorte de familiarité dans la manière dont elles étaient en train de réfléchir toutes les quatre. Une familiarité qui transcendait la notion de lieu. La communauté des sœurs était leur maison, non pas les bâtiments qui les abritaient provisoirement, mais le simple fait d'être ensemble. Bayonda formula ses pensées pour elle.
« Je crains que nous n'ayons œuvré dans des directions contraires. »«
La crainte a ce genre d'effet, » dit Shiana.
Odrad n'osa pas sourire. Cela aurait pu être mal interprété et elle n'avait pas envie de se lancer dans des explications. Donnez-nous seulement Murbella pour sœur et un bacha rétabli. Nous aurons peut-être alors une chance au combat. » À ce moment précis, alors qu'elle était sous le coup de ses bonnes pensées, le signal de communication cliqueta. Par pur réflexe, elle jeta un coup d'œil à la surface de projection et reconnut aussitôt la crise. Ainsi, petit événement, toute proportion gardée, allait précipiter les choses. Clairby, mortellement blessé dans un accident d'orni. Mortellement. À moins que. Cet « à moins que » ne faisait pas de doute dans son esprit. Un cyborg. C'était l'unique solution. Ses compagnes lisaient le message à l'envers, mais on finissait par savoir déchiffrer les informations miroirs d'un seul regard quand on vivait ici. Elle savait. Où est la ligne de démarcation? Bayonda, par exemple, avec ses antiques lunettes, alors qu'elle aurait pu avoir des yeux artificiels ou l'une des innombrables prothèses qui existaient, votait avec son corps. Voilà ce que c'est que d'être humain. On essaye de s'accrocher à sa jeunesse et elle vous nargue en s'éloignant au galop. Le mélange suffit, et c'est peut-être encore trop. Audrade reconnaissait ce que ses propres sentiments étaient en train de lui dire. Mais les impératifs propres au Bene Gesserit? Bey pouvait voter en tant qu'individu et tout le monde acceptait et respectait son vote, mais la mère supérieure engageait le Bene Gesserit entier. D'abord les Kuvaxlotl et maintenant cela. Les impératifs disaient qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre un spécialiste du calibre de Clairby. Ils étaient déjà bien trop rares. Non seulement le filet s'étirait, mais il commençait à se déchirer par endroits. Qu'on fasse de Clairby un cyborg, cependant, et la déchirure devenait un point fort. Les souks étaient prêts à tout moment, mesure de précaution pour le cas où un accident arriverait à quelqu'un d'irremplaçable. La mère supérieure, par exemple? Audrade elle-même avait approuvé ce dispositif avec les réserves habituelles. Mais où étaient-elles à présent, ces réserves? Cyborg. Encore un de ces pots pourris sémantiques. À quel moment la cybernétique prenait-elle le pas sur l'organisme humain? Où était la limite au-delà de laquelle un cyborg cessait d'être un être humain? Les tentations se faisaient de plus en plus fortes. Juste une petite modification. Et le réglage était si facile à changer qu'on finissait par se retrouver avec un pot pourri humain prêt à obéir sans restriction. Mais Clairby, les circonstances mortelles disaient « il faut en faire un cyborg ». Le Bene Gesserit était-il acculé à des mesures aussi extrêmes? Elle était obligée de répondre par l'affirmative. C'était donc clair. La décision ne lui échappait peut-être pas entièrement, mais l'excuse était là, à portée de la main. Ce sont les nécessités qui le dictent. Le djihad butlérien avait laissé sa marque indélébile sur le genre humain. La guerre avait été faite et gagnée pour un temps. Mais voilà que cet ancien conflit exigeait une nouvelle bataille. Dans l'immédiat, c'était la survie de la communauté des sœurs qui se trouvait en jeu. Combien de techniciens spécialisés le chapitre avait-il encore? Elle connaissait la réponse sans avoir besoin de consulter des chiffres. Pas assez. Elle se pencha vers sa console et appuya sur la touche de transmission. « Faites-en un cyborg, » dit-elle. Bayonda grogna. D'approbation ou de désapprobation? Jamais elle ne le dirait. C'était le domaine réservé de la mère supérieure et grand bien lui fasse. Qui a gagné cette bataille? Se demandait Audrade.